De Dieu d'Aix-en-Provence et de notre pasteur Nathanaël Koudougou, son épouse Marilyn, les enfants Iloé et Timéo. Je remercie votre serviteur pour sa confiance, son invitation. Je remercie Alexandra, Grégory et Pauline pour leur patience à mon égard et pour tout ce qu'ils ont fait pour moi pour rendre ce séjour le plus agréable possible. Je me suis marié le 21 août 1982 avec Rosa Maria Camarata Pilato. Elle est originaire de la province de Caltanissetta dans le centre de la Sicile, mais elle est née en Belgique, dans la province du Hainaut, près de Mons, une famille de 6 enfants, et moi-même je viens d'une famille de 6 enfants. Je suis l'aîné, derrière moi j'ai 5 sœurs. Par contre, chez mon épouse, c'est équilibré, 3 filles et 3 garçons. Nous avons de cette union eu 3 enfants, Rachel, qui est née en 1984, elle est échiroloise, Échirol près de Grenoble. Esther, qui est née en 1987, toulonnaise. Et Jean-David, qui est né en 1990, toulonnais, lui aussi. Voilà, c'est un peu le périple pastoral. Rachel est mariée à Franck depuis 2005. Ils ont 3 enfants, Mathéo qui a 13 ans, Linaël 9 ans et Mila qui a 2 ans. Franck est israélo-arménien-corse. Donc ça donne un certain relief. Esther est mariée à Scott, qui lui est ghanéen. Donc nous avons Isaac et Shadé, 2 enfants de Scott et d'Esther, qui ont 7 et 2 ans. Et puis Jean-David est marié à Barbara, qui est camerounaise. Donc l'Afrique est rentrée en force dans notre famille. Alléluia. Elle vient de Yaoundé, la capitale donc du Cameroun, et elle est née dans la partie anglophone donc du Cameroun. Rachel et Esther, avec leur famille, sont partis à Montréal au mois d'août de l'année dernière pour étudier à l'université, et leurs maris les ont suivis et travaillent donc sur la province de Québec. Jean-David est resté, lui, dans la région parisienne, à Noisy-le-Grand. Je suis rentré dans le ministère en 1982 à Gap, puis ensuite à Grenoble et Échirolles, puis ensuite à Toulon-Lavalette, à Istres en Provence, et enfin j'ai passé 17 ans, mes dernières années, à Aix en Provence, où je suis jeune retraité depuis le 1er janvier 2020. J'ai commencé l'accompagnement des personnes seules en 2005 au centre de vacances des Alpes, à Gap, et chaque année cet événement se renouvelle, et depuis 2009 je suis enseignant à l'ITB à Léognan, où j'enseigne les prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, la relation d'aide, et Daniel et Apocalypse. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsqu'il a créé l'univers, il l'a créé en lui donnant un sens, un but, un objectif. Tout a été créé pour sa gloire. Le soleil glorifie Dieu lorsqu'il éclaire et réchauffe la terre. Le pommier glorifie Dieu lorsqu'il produit des pommes. Et la terre glorifie Dieu lorsqu'elle permet à la semence de produire du blé, de l'orge et bien d'autres choses. Et l'homme glorifie Dieu lorsqu'il reconnaît Dieu en tant que son Créateur, Jésus-Christ en tant que son Sauveur. Il glorifie Dieu lorsqu'il rentre dans l'institution divine du mariage, un homme attaché et uni à sa femme, et lorsqu'ils accomplissent ce mandat divin que Dieu leur a confié, être des parents pour la gloire de Dieu, et ainsi permettre à leurs enfants de découvrir ce Dieu dans son amour, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu glorieux. Voilà pourquoi le don du mariage, de la sexualité des enfants a été créé et conçu par Dieu. La famille n'appartient pas à l'État. La famille appartient à Dieu. C'est Dieu qui l'a pensé, c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui en a déterminé la structure intérieure. Il en a arrêté la raison d'être et le but final. C'est le lieu où l'enfant se construit en adulte. C'est aussi le lieu où réside la croissance du corps de Christ, car plus les familles grandissent dans la connaissance du Seigneur, plus l'Église elle-même grandit dans la connaissance du Seigneur. Chaque couple en Christ doit être convaincu que Dieu l'a appelé à ne faire qu'un pour que les conjoints, mari et femme, puissent s'entraider mutuellement, croître mutuellement dans la connaissance de Dieu, afin de pouvoir amener leurs enfants et contribuer à leur transformation spirituelle. Car les époux qui œuvrent mutuellement à leur transformation spirituelle, eh bien, peuvent se consacrer à ce ministère très important, à savoir la transformation spirituelle de leurs enfants. même si nous avons des objectifs très pratiques et très concrets. Dieu ne l'empêche pas. Si nous avons posé sur notre fille qu'elle sera peut-être présidente d'un tribunal, si nous avons posé sur notre garçon qu'il sera peut-être avionneur, bon, peu importe, on peut avoir des visions comme cela. Mais le plus important, c'est de construire nos enfants d'une façon spirituelle. La famille chrétienne n'est donc pas créée pour sa propre satisfaction, mais elle a été créée et voulue pour l'honneur et la gloire de Dieu. Et c'est avec l'aide du Saint-Esprit que l'homme et la femme vont coopérer à ses desseins et en devenir partie intégrante. La mission commune que Dieu nous a confiée en tant qu'époux et parents est celle d'équiper la génération future pour marquer ce monde par l'empreinte de Christ. Dieu a laissé son empreinte sur cette terre à travers Jésus-Christ et nous sommes appelés nous aussi à laisser cette empreinte de Christ dans nos enfants pour qu'ils puissent à leur tour imprégner et laisser l'empreinte de Christ sur leur génération. Ainsi, ce n'est pas notre mariage, mais le sien. Ce n'est pas notre couple, mais le sien. Ce n'est pas notre famille, mais la sienne. Ce ne sont pas nos enfants, mais ce sont les siens. Et Dieu désire utiliser chaque couple en Christ pour glorifier son nom auprès de notre entourage, de notre assemblée locale, de notre région, de notre pays et jusqu'aux confins de la terre. Qu'est-ce qu'un enfant peut devenir entre les mains de Dieu ? Un serviteur de Dieu, un missionnaire ? Une jeune femme qui partira en coopération dans la mission et qui portera le nom de Christ, qui sera un modèle et un exemple au loin. Dieu sait ce qu'il fera de chacune et de chacun de nos enfants, mais cela commence par nous. Cela commence avec nous. Et cela se fait avec Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Puisque Jésus est vraiment le Seigneur de notre famille, et j'espère que Jésus est vraiment le Seigneur de chaque famille, il exercera sa sainte influence par la présence et le ministère de l'Esprit-Saint. Paul le rappelle dans Romains 8, 14, « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Forcément, il y a là un même état d'esprit. Nous partons du principe que celui qui a pensé et créé la famille connaît bien le sujet et qu'il peut nous conduire et nous aider et nous conseiller. Les conditions et les situations peuvent changer. Les mœurs, les modes peuvent évoluer avec leur temps, mais les principes divins, eux, ont une validité permanente. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Christ ne passeront pas. On peut voir dans l'évolution de l'éducation, on peut voir dans l'évolution de l'instruction, on peut voir dans l'évolution de la famille beaucoup de choses. Des lois peuvent être votées, mais une seule loi, elle demeure, c'est la loi de notre Dieu. Et la famille chrétienne est une famille qui vit avec et pour Christ. Et Jésus, dans Jean 14, 15, précise ceci, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Alors, le mandat de des parents vis-à-vis de leurs enfants se situe en deux cas. Le premier mandat, c'est que nous présentons Dieu à nos enfants. Et le deuxième mandat, c'est que nous présentons nos enfants à Dieu. Donc, c'est aussi simple que cela, et c'est notre mandat. Nous avons été mandatés par Dieu pour cela. Et ce n'est pas l'État qui doit se charger de l'éducation spirituelle de nos enfants, ce n'est pas l'État qui doit se charger de la construction psychologique et morale de nos enfants, mais c'est nous qui avons la responsabilité. Et si nous voulons que dans ce pays, il y ait des citoyens et des citoyennes et qui puissent être utiles à la nation, cela commence à la maison. Dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4, il est écrit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Pas simplement dans la tête, mais dans ton cœur. C'est bien de connaître Dieu d'une façon intellectuelle, mais il faut que notre cœur s'unisse à l'intelligence pour que cela produise en nous cette conversion, cette transformation par la puissance du Saint-Esprit. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Comment voulez-vous que nos enfants aiment Dieu si les parents, vis-à-vis de Dieu, ont un amour assez distant ? Nos enfants, nous ne pouvons pas les tromper. C'est la première Bible qu'ils lisent, avant de venir à l'église, la première Bible qu'ils lisent, ce sont leurs parents. Et quand le pasteur prêchera le pardon, eh bien, déjà à la maison, ils verront si papa pardonne à maman et maman pardonne à papa. Et si papa se trompe, pardonne à ses enfants. La meilleure prédication et le meilleur enseignement se passent à la maison. Il y a des choses que la prédication ne fera pas, mais que la vie des parents fera. La prédication nous enseigne, elle pose les bases, elle nous invite, elle nous touche, elle nous conduit par le Saint-Esprit à cette transformation, mais l'exemple, nos paroles prêchent plus fort, nos actes, pardon, prêchent plus fort que nos paroles. Si dans l'Église nous parlons d'amour et qu'à la maison, le mari n'est pas capable d'aimer son épouse et l'épouse d'aimer comme il convient en Christ son époux, les enfants auront un dilemme entre ce qu'ils entendront à l'Église parler de l'amour de Dieu, parler du mari qui doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, parler de la femme qui doit être soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ, il y aura un conflit. Et peut-être qu'un enfant trappera la veste du pasteur en disant « Pasteur, éclaire-moi, parce que ici tu dis ça, mais à la maison, c'est autre chose. » Et le pasteur va vous éclairer, mes chers enfants. Il va vous apporter la parole de Dieu. C'est notre vocation de parents. Notre attachement, notre consécration, nos enfants, la voient. Et cela doit transpirer. Cela doit être la bonne odeur de Christ que nous portons au milieu d'eux. Comment pouvons-nous dire à nos enfants que notre relation à Dieu est importante s'ils ne nous voient jamais prier, s'ils ne nous voient jamais ouvrir la Bible, si nous ne prions pas avec eux et pour eux? Vous savez, nos enfants ne sont pas dupes. Si nous n'avons qu'une religion, qu'un vernis religieux, si nous vivons notre foi d'une façon superficielle et artificielle, nos enfants le seront. En plus, quand ils viendront à l'Église, ils se rendront compte qu'il y a d'autres papas, d'autres mamans qui peut-être, eux, par leur prière, par leur présence, vivent la foi d'une façon plus profonde. Et c'est pour cela qu'en tant que parents, nous devons cultiver notre relation à Dieu, notre intimité avec Dieu. Parce que si nous passons du temps dans la prière, nous démontrons à nos enfants que Dieu est vraiment important pour nous. Vous savez, le temps, c'est important. Passer du temps avec son épouse, c'est lui montrer que le temps est important. Et vous savez, le temps que vous donnez, vous ne pouvez plus le rattraper. Mais le temps que vous donnez démontre très clairement que j'aime passer du temps avec toi. Je veux passer du temps avec toi. Et le temps que nous passons avec Dieu, c'est un message clair et fort que nous donnons à nos enfants. Nous aimons passer du temps avec le Seigneur. Peut-être que vous ne voyez pas souvent votre papa ou votre maman se lever de bonne heure parce qu'ils apprécient le silence du matin pour pouvoir être dans la présence de Dieu, pour pouvoir prier, pour pouvoir lire la parole de Dieu. Mais tôt ou tard, vous comprendrez très bien que la vie spirituelle de vos parents est enracinée dans ce temps de communion avec Dieu, enraciné dans la parole de Dieu, animé par la vie de l'Esprit. Nous avons très tôt, et même avant la naissance de nos enfants, parce qu'on sait que l'embryon est très sensible dans le sein maternel, et les accoucheurs, les sages-femmes, savent très bien ce qui a suivi les heures avant l'accouchement, si la maman a pris de la drogue, si elle a bu un verre d'alcool, si l'ambiance était plutôt électrique, lorsque l'enfant naît, cela se voit. Et nous avons très tôt fait entendre, alors que l'enfant était dans le sein maternel, pour Rachel, pour Esther, pour Jean-David, la musique chrétienne, des chants chrétiens. Prier, car l'enfant dans le sein maternel entend, il est sensible à la voix. Autant il est sensible au cri qu'il est sensible au calme, à ce qui est apaisant. Et très tôt, donc, avant même que l'enfant naisse, et lorsqu'il est né, il devait ressentir qu'il est né dans un foyer où Dieu était au cœur, Christ était au centre et le Saint-Esprit en était le pédagogue et le consolateur. Notre vie de prière n'est pas un devoir religieux. Venir le dimanche matin au culte, assister aux réunions de semaine, ce ne sont pas des devoirs, mais c'est un amour pour rencontrer celui qui nous aime, un amour pour rencontrer celui qui a envers nous une patience extraordinaire, rencontrer celui qui par le Saint-Esprit peut nous inspirer. Parce qu'au milieu de nous, il y a des auteurs, compositeurs, interprètes. Il y en a qui aiment la musique, qui aiment le chant, et c'est bien. Et Dieu est là pour vous inspirer, le Saint-Esprit est là pour vous inspirer, pour vous éclairer. Mais aussi, parents, pour vous inspirer dans une parole, pour vous inspirer dans un geste, pour vous inspirer dans un accompagnement, pour vous inspirer et voir ce qui est caché, ce que votre enfant vous cache parce qu'il a peur, parce qu'il a honte, parce que peut-être il est opprimé, parce que peut-être il est dominé dans son lycée, dans son collège, mais le Saint-Esprit vous le révèle pour que vous protégiez, aimiez, accompagniez votre enfant et le défendiez. Moïse, Samuel, Élie, Néhémie, Daniel, Paul ont été des grands hommes de Dieu et je dirais des grands hommes de prière. C'est inséparable. Vous ne pouvez pas être un homme, une femme de Dieu si vous n'êtes pas un homme, une femme de prière. Et notre Seigneur Jésus-Christ a été dans le domaine de la prière un exemple et un modèle. Et les disciples se sont aperçus que suite à ces moments de prière, Jésus en ressortait plus fort, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le plus grand service que nous puissions rendre à nos enfants dans le domaine spirituel, c'est celui de la prière. Nous faisons fonction de médiateur, de sacrificateur dans ce domaine. Nous prions pour nos enfants avant même qu'ils sachent parler, avant même qu'ils puissent prononcer un mot. Nous sommes des intercesseurs fidèles pour nos enfants. Alors, notre premier mandat, c'est de présenter Dieu à nos enfants. Le Seigneur nous a laissé sa parole. Le Seigneur nous a touchés. Le Seigneur nous a laissé l'Évangile. Le Seigneur nous a laissé le message de la croix. Le Seigneur nous a laissé la présence du Saint-Esprit pour que nous puissions présenter Dieu à nos enfants. Quel Dieu présentez-vous à vos enfants? Est-ce que c'est le Dieu bling-bling? Est-ce que c'est le Dieu argent? Est-ce que c'est le Dieu de la réussite? Est-ce que c'est le Dieu de la promotion sociale? Est-ce que c'est le Dieu laxiste? Est-ce que c'est le bon Dieu bedonnant, souriant, qui laisse tout faire? Quel Dieu nous présentons à nos enfants? Notre premier mandat, c'est de présenter Dieu à nos enfants. Nous devons incarner, eh bien, la parole de Dieu. Nous devons la vivre devant nos enfants. Elle doit prendre tout son relief et toute sa couleur et inculquer à nos enfants la parole de Dieu. C'est le faire avec tendresse, avec bienveillance. On n'est pas là pour leur taper sur la tête avec la Bible en disant « il faut que ça rentre, il faut que ça rentre ». Non, nous mettons de l'amour et de la tendresse. Et cet enseignement que nous donnons à nos enfants doit être dirigé par le Saint-Esprit. Dieu connaît le cœur de nos enfants. Rachel, lorsqu'elle est née, notre aînée, comme je l'ai dit, c'était la petite maison dans la prairie, très calme, sa chambre était rangée, vraiment, on ne savait pas si elle était là, ne faisait pas de bruit. Quand est née Esther, là, c'était plutôt la tornade blanche, donc et Rachel a très vite vu que sa sœur, l'ordre, elle le comprenait d'une autre façon. Donc, c'était plus si harmonieux que ça dans l'esprit de Rachel. Et Jean-David, lui, c'est un mixte des deux. Mais c'est pour dire que même dans une fratrie, il y a des personnalités et des caractères différents. Pourtant, papa et la maman sont toujours les mêmes, mais il y a des caractères différents. Et c'est important d'en tenir compte. Vous ne pouvez pas, même si vous faites un culte en commun, vous réunissez les enfants, mais il est important peut-être de prendre à part l'un des trois pour lui expliquer certaines choses et lui faire comprendre ce qu'est la patience, ce qu'est la douceur, ce qu'est la tendresse, ce qu'est le fait d'attendre l'autre. Parce qu'un enfant peut être plus vif ou plus vive qu'une autre ou qu'un autre, mais il doit apprendre là aussi à respecter son frère ou sa sœur. Et notre famille doit être remplie de l'Esprit. C'est important le Saint-Esprit. Dieu, Saint-Esprit, cette relation à l'Esprit, cette vie spirituelle est fondamentale. L'administrateur, le gérant, le garant de tout ce que Christ nous a acquis à la croix, cela est possible par le Saint-Esprit. Quand bien même Jésus est mort à la croix, quand bien même son sang a coulé pour le pardon de nos péchés, s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, vous et moi, nous serions perdus. Combien de fois je suis passé, en tant que catholique romain, devant une croix sans comprendre le message de la croix? Combien de fois, dans la période, dans la semaine de Pâques, j'ai embrassé les pieds d'un crucifié sans comprendre qui était ce crucifié? Combien de fois j'ai fait le tour des différents stades concernant la voie douloureuse, la passion du Christ, sans comprendre ce que c'était? Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas la Bible. Vous ne pouvez pas mettre la Bible avant le Saint-Esprit, c'est impossible. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la Bible. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'inspiration de la Bible. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de compréhension de la Bible. Et sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas mettre la Bible en pratique. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et si le Père et le Fils ont envoyé l'Esprit Saint, c'est que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de conviction de péché. C'est le Saint-Esprit qui vous convaincra de péché. Moi, je ne vous convaincrai pas, mais le Saint-Esprit vous convaincra de péché. C'est lui qui vous convaincra de l'amour de Dieu, de l'authenticité de la Bible, parole de Dieu. Et si la Bible est esprit et vie, ce n'est pas parce que c'est de l'imprimerie du papier, ce livre bulle-rule, autant que le Coran, que n'importe quel livre religieux. Mais ce qui fait la différence de la Bible, c'est qu'elle est esprit et vie. Et plus vous détruirez ce livre, plus ce livre sera multiplié. Et le livre est toujours le livre le plus imprimé, le plus vendu, le plus distribué dans le monde entier encore aujourd'hui, parce que cette parole est esprit et vie, parce que l'Esprit de Dieu veille, et Dieu veille sur sa parole. Et quand je lis la Bible, c'est une rencontre avec l'auteur de sa parole, avec Dieu, avec l'incarnation de son amour Jésus, avec ce souffle du Saint-Esprit qui donne corps et vie à ce que nous croyons. L'Esprit de Dieu est l'antidote contre les idéologies laïques, les philosophies humanistes, la puissance occulte des ténèbres et la corruption qui déferle aujourd'hui sur notre génération. L'Esprit qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ou c'est Jésus, ou c'est le péché qui remplira le cœur de vos enfants, ou c'est l'Esprit Saint, ou c'est l'Esprit de ce monde qui conduira vos enfants. Alors, ce mandat divin, nous devons l'accomplir. Et nous devons présenter Dieu à nos enfants, d'où l'importance du culte de famille. Parce que nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes, tellement centrés sur nos problèmes, tellement centrés sur nos difficultés, tellement centrés parfois aussi sur la beauté de nos enfants, de nos petits-enfants. Mais nous devons, dans le culte de famille, être centrés sur l'essentiel, centrés sur Christ. Plus important dans nos rassemblements, c'est Jésus. Il est au cœur et au centre. Et les cultes de famille, je le faisais souvent le soir, le lundi soir, le mercredi soir, le vendredi soir, le dimanche soir. J'en remettais encore une couche le dimanche soir. Et je le passais donc avec Rachel, Esther, Jean-David, avec la parole de Dieu. J'avais le livre du pasteur Edouard Kowalski, qui est un livre qui était adapté pour les enfants, avec une histoire biblique. À la fin, il y avait des questions, voir si l'enfant avait bien saisi, bien compris. Il y avait aussi des images qu'on pouvait montrer. Cela permettait pour moi de faire des bruits, de faire des sons, d'imiter l'âne, etc. Bref, de rendre la Bible vivante. Pas de faire l'âne, d'imiter l'âne. Bien. Ce culte de famille, nous devons l'adapter selon l'âge, les orientations, les besoins et la connaissance que l'enfant a, cette connaissance grandissante, de ses acquis, bien entendu, académiques et pédagogiques, mais aussi de cette croissance qu'il a de l'acquisition de la connaissance de Dieu. Alors, pour les parents qui ont une voix extraordinaire et qui jouent d'un instrument, ils peuvent alimenter cette soirée avec un chant, avec leur instrument. En tout cas, prier, bien entendu. Aider les enfants à mémoriser des versets. Et c'est très important de pouvoir mémoriser des versets. Lire une histoire de la Bible. Daniel dans la fosse aux lions. David devant ce géant Goliath, Moïse devant la mer Rouge, Jésus avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Rendre vivante la lecture avec des rimes, des intonations de voix, des gestes appropriés, des objets peut-être, des mimiques. Et puis bien entendu, voir si l'enfant a bien compris et ensuite l'inviter à prier. Ils apprennent ainsi à le connaître, ce Dieu vivant et tout-puissant. Pas simplement à lire sa parole, mais à comprendre qu'on peut lui parler. Dieu parle à travers sa parole, mais je peux lui parler. C'est aussi un Dieu qui écoute et surtout un Dieu qui agit. Il est important d'introduire de la diversité dans la prière familiale. Par exemple, le lundi, c'est la prière de la foi. Bien sûr, c'est toujours la prière de la foi, mais particulièrement là, on va demander à l'enfant d'avoir peut-être un sujet sur lequel il veut voir un exaucement. Peut-être qu'il va demander de prier pour sa maîtresse, pour son maître, peut-être pour un copain, une copine, peut-être pour un examen. Demandez à l'enfant, peut-être pour une guérison, une délivrance de ce qu'il connaît. Le mardi, c'est la prière pour les membres de la famille, proches, éloignés. Mercredi, on médite sur Matthieu 6, 5 à 15, qui est le Notre Père. Jeudi, on prie pour l'action missionnaire, les champs de mission, les missionnaires, la famille. Vendredi, on prie pour notre pays, notre région. On prie pour les œuvres des assemblées de Dieu. Samedi, nous prions pour notre assemblée locale, son pasteur, son CA, les responsables des différents départements d'activité. Et dimanche, eh bien, comme on se trouve au culte, et que les enfants sont à l'école du dimanche, donc là, c'est la prière en commun. Donc, nous présentons Dieu à nos enfants par l'enseignement. Mais nous présentons Dieu à nos enfants aussi par des symboles. Dans Deutéronome 6,8, il est écrit, « Ces commandements, tu les attacheras à tes mains, comme un signe. Ils seront comme une marque entre tes yeux. Et tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de ta ville. » Le symbole permet à l'enfant de comprendre dans un langage clair ce que la parole dit avec des mots. Par exemple, présenter à l'enfant une croix vide, c'est lui parler du sacrifice de Jésus à la croix, mais la croix est vide parce que Jésus n'est plus sur la croix. Présenter à un enfant un agneau, c'est présenter Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. C'est présenter la fragilité de l'animal, c'est présenter la pureté de cet agneau et la beauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Présenter les lettres alpha et oméga, les dessiner, les peindre, c'est parler de Jésus qui est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. On peut présenter une étoile, cette étoile qui a conduit les mages à adorer l'enfant Jésus. D'ailleurs, je souligne que les bergers n'ont pas adoré l'enfant Jésus, sont venus voir ce que les anges ont dit au sujet de l'enfant Jésus, mais les mages ont adoré l'enfant Jésus, ce qui fait que ce sont les païens les premiers qui ont adoré l'enfant Jésus. Les Israélites ont été doublés. Et on le voit à la fin de l'évangile de Matthieu, pourquoi et comment? Parce que la majorité d'Israël n'a pas su voir dans le Christ le Messie annoncé par ses prophètes. L'étoile aussi me parle de Jésus, l'étoile brillante du matin. Une couronne me rappelle que Jésus est roi, surtout dans la période des galettes des rois. Donc c'est facile d'avoir une couronne et de rappeler qu'un jour nous jetterons nos couronnes à ses pieds. Il est le roi des rois. Une porte. La porte me parle de Jésus, qui me donne accès au chemin qui est la vérité et la vie en Jésus-Christ. Notre maison, comment aller décorer? Je me souviens, dans la maison de mes beaux-parents, je ne pouvais pas faire un pas dans le hall, dans l'escalier, dans la salle à manger, dans le salon, dans la cuisine, dans les chambres, dans les couloirs, sans qu'il y ait des tableaux avec des versets bibliques qui étaient peints et décorés. Alors, c'est en italien, certes, mais donc moi, ça m'a permis d'apprendre l'italien, mais en même temps de mémoriser des versets de la Bible. Un piano dans une maison montre que la musique est importante, qu'elle a sa place. Nous avons tant besoin de chantres et des musiciens, et c'est bien d'encourager vos enfants, si vous le pouvez, à la musique, et d'en faire vraiment des enfants qui loueront le Seigneur à travers donc la musique. Nous présentons nos enfants donc à Dieu aussi, c'est notre deuxième mandat. Après avoir présenté Dieu à nos enfants, il sera donc facile maintenant de présenter nos enfants à Dieu. Dans Hébreux 7, 25, par conséquent, Jésus peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ce temps que je passais avec Rachel, avec Esther et Jean-David, j'étais très content. Cela les a conduits, bien entendu, à la conversion. Donc, Rachel est passée dans les eaux du baptême, elle avait 16 ans. Donc, Esther, pareil, et Jean-David, il avait aussi, lui, 16 ans. Jean-David a été baptisé à Aix-en-Provence, Rachel et Esther à Istres. Mais à Aix-en-Provence, donc, ils avaient chacun leur chambre. Et alors, parfois, je frappais. Parfois, je ne frappais pas la porte, mais quand la porte était entrouverte, je ne frappais pas. Et j'étais heureux lorsque je poussais la porte, je voyais mon fils au bord de son lit avec la Bible ouverte. Alors, j'ai dit, le temps que j'ai passé avec eux, c'est du temps qui a porté du fruit. C'est très important. Et aujourd'hui, s'ils servent le Seigneur, s'ils le servent dans la louange, dans le chant, dans la musique, s'ils le servent à travers la prédication, s'ils le servent en étant cette aide auprès de leurs serviteurs, c'est parce que les parents ont semé dans leur cœur ce qu'il fallait. Nous avons besoin, cette nation a besoin d'hommes et de femmes qui craignent Dieu, d'hommes et de femmes qui savent ce que c'est que l'obéissance, l'humilité, le service. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui, dans le corps de Christ, sont des servantes et des serviteurs à la gloire de Dieu, assistent leurs pasteurs, sont à leur côté, pour que ce plus grand nombre dans cette ville d'Annecy et de sa région puisse trouver en Jésus-Christ le Sauveur. Donc, après avoir présenté Dieu à nos enfants, nous présentons nos enfants à Dieu. Et par ce texte biblique, nous voyons que Jésus, dans sa fonction d'intercesseur, est aussi médiateur. Et c'est notre rôle, nous aussi, d'exercer cette médiation. Nous intercédons pour nos enfants et nous sommes également cette médiation auprès du Père et du Fils pour nos enfants. Nous supplions notre Dieu, notre Père, de toucher le cœur de nos enfants. Et nous devons assumer, nous parents, et assurer ce ministère auprès de nos enfants. Non seulement nous sommes un exemple, un modèle, mais en même temps, nous sommes en action avec Dieu pour qu'il puisse toucher le cœur de nos enfants. Ce ministère exige une vie de prière disciplinée, bien entendu. Exige la foi des parents. Moi, je crois que lorsque je prie, Dieu m'entend. Je crois que lorsque je prie, Dieu agit. Peut-être pas toujours comme moi je l'entends, mais comme lui agit, c'est toujours juste, c'est toujours au bon moment. Dieu n'est jamais en retard et jamais en avance, mais c'est toujours au bon moment. Et la force de la prière des parents se trouve dans l'onction du Saint-Esprit. Une fois de plus, il faut qu'il y ait la vie. Si des parents prient notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Après, le papa il va être étonné d'entendre quelque part dans la chambre, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le petit va imiter. Il va faire pareil. Non, il faut qu'il y ait la vie de l'esprit. Je crois ce que je dis, je crois ce que je crois et je le vis surtout. Je le vis non pas parce que je le sais simplement, mais parce que ça a bouleversé, touché mon cœur et bouleversé ma vie. La prière, je la vois en quatre phases. D'abord, choisir un objectif. Dans la prière, je choisis un objectif. Après avoir loué Dieu, je choisis un objectif réaliste et concret. On ne va pas décrocher la lune pour nos enfants, mais on va prier d'une façon concrète. Et nos enfants vont pouvoir toucher du doigt. Peut-être un camarade qui les avait peut-être pris en grippe, et de voir ce camarade changer tout d'un coup de mentalité et d'être plus calme envers notre enfant. De voir un professeur qui peut-être n'a pas su discerner la particularité de notre cher enfant, mais de voir ce professeur être touché à un moment donné et de s'approcher de notre enfant d'une façon différente. Et par la prière, l'enfant va entendre et va voir de ses propres yeux que ça marche la prière, un objectif. Puis, une fois que nous avons choisi l'objectif, nous mettons notre foi en action. Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Jean 14, 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Matthieu 18, 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur cette terre pour demander une chose quelconque, alors sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Et puis, une fois que nous avons choisi l'objectif, que nous mettons notre foi en action, nous ouvrons la bouche. Nous ouvrons la bouche pour prier. Dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque Philippe va approcher le char de ce ministre des Finances de la reine Candace d'Éthiopie, il nous est dit que Philippe, ouvrant la bouche, se mit à annoncer l'évangile. Ça paraît étrange, mais si vous n'ouvrez pas la bouche, c'est un peu difficile. Donc, vous exprimez votre foi et votre enfant entend votre prière. Il entend la vie qu'il y a dans votre prière, ce souffle de l'esprit, il voit la foi qui anime votre prière, et après votre enfant va prier avec enthousiasme, il va prier avec foi. Et puis, je termine par cette quatrième phase, dans ce moment de prière, je rends grâce à Dieu. Avant de recevoir, remercions. Croyons. Notre confiance en Dieu nous encourage à lui rendre grâce. Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nos enfants ont beaucoup prié. Ils ont vu à l'école certains camarades changer. Ma fille Rachel a pu pénétrer dans une famille juive et leur présenter le nom de Jésus. Ma fille Rachel a témoigné à une témoin de Jéhovah qui s'est convertie, qui a abandonné la secte et qui s'est réellement convertie. La maman, la fille se sont converties. Alors c'est important le témoignage de nos enfants. Et puis, je crois dans ces prières que moi, en tant que papa, je n'ai pas entendu, mais ces prières qui m'ont porté, ces enfants qui m'ont porté, mes enfants qui m'ont porté dans leurs prières. Parce que c'est ça la bénédiction. Si vous bénissez vos enfants, si vous les arrosez de la prière, n'oubliez pas qu'ils vont vous arroser aussi par la prière. Et combien un papa pasteur a besoin d'avoir la prière de ses enfants? Combien une maman, épouse de pasteur, a besoin de la prière de ses enfants? Et combien chacun d'entre vous, parents, nous avons besoin de la prière de nos enfants. Et peut-être, vous ne l'avez peut-être pas vu, vous ne l'avez pas entendu, mais dans leur cœur, ils prient pour vous. Parce qu'ils vous aiment, au fond. Parce qu'ils réalisent le privilège qu'ils ont de ne pas être une famille monoparentale. Ou de ne pas être des pupilles de la nation. Ils réalisent qu'ils ont un papa et une maman. Alors bon, certains, ça va les faire souffler. Oh ouais, papa et maman. Mais c'est une bénédiction! Et en plus, quand le papa et la maman croient en Jésus, mais c'est une grâce, c'est le trésor le plus précieux que nous ayons sur cette terre. Moi, mes parents n'étaient pas au Seigneur. Les parents de Rosemary étaient au Seigneur et j'ai vu la différence. Rosemary s'est convertie, elle avait 9 ans. À 9 ans, on peut se convertir. À 7 ans, on peut donner son cœur au Seigneur. À 5 ans, on peut comprendre que Jésus est mort à la croix pour le pardon des péchés. Et croyez-moi, vous qui êtes anciens, ce n'est pas un feu de paille. Et je puis vous dire que Rosemary a été cette colonne et ce soutien dans mon ministère parce que c'est une femme de foi, une femme de prière. À l'âge de 9 ans, elle a donné son cœur au Seigneur. À 13 ans, elle était baptisée parce que le pasteur pensait qu'elle en avait 15. Et je puis vous dire qu'elle n'a jamais, 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 dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus prégnants, elle n'a jamais, jamais abandonné la main du Seigneur, jamais abandonné la prière, jamais abandonné la foi, jamais abandonné la persévérance, jamais, jamais, jamais. Elle a toujours cru que Dieu pouvait rendre son mari meilleur. Et elle a bien fait. Parce qu'il faut le supporter, le garçon. Hein. Heureusement qu'il y en a un seul sur la terre. Je rends grâce à Dieu pour cela. Nous présentons Dieu à nos enfants, nous présentons nos enfants à Dieu. Et la prière pour recevoir une direction divine. Psaume 25, verset 4. « Éternel, fais-moi connaître tes voies. enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es Dieu, le Dieu de mon salut, je m'attends à toi chaque jour. » Psaume 25, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Psaume 25, verset 14. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent, il leur fait connaître son alliance. Oui, il y a des choses cachées que parfois Dieu nous révèle dans le cœur de nos enfants. Des choses que nous ne voyons pas, mais dans la prière, Dieu permet de comprendre, de cerner ce qui trouble le cœur de notre enfant, ce qui fait qu'à un moment donné, sa joie est un peu ternie, ce qui le dérange. Et c'est là, dans la prière, que Dieu nous montre. Et c'est là que nous pouvons nous approcher de notre enfant avec les mots, avec la tendresse, sans jugement, et de pouvoir parler cœur à cœur avec notre enfant, l'amener à reconnaître sa difficulté, son problème, et ensemble trouver au pied du Seigneur cette solution, cette libération. Et puis, bien entendu, il y a la prière de louange, d'action de grâce, d'adoration. Dans l'adoration, c'est la forme de la prière la plus élevée. Adorer, c'est être prosterné. On ne peut pas adorer debout ni assis. Quand on est dans l'adoration, on est prosterné. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est bien ce que Satan avait proposé à Jésus. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout cela. L'adoration, c'est être prosterné. Pas proscrit, mais prosterné. On est prosterné devant le Seigneur et là, il n'y a rien qui sort de notre bouche. Tout se passe à l'intérieur. Il y a un flot de louanges. Il y a une révélation de qui est Dieu dans sa sainteté, dans sa grandeur, dans sa souveraineté, dans sa majesté, dans ses différents attributs, ses différentes vertus. Nous sommes imprégnés de sa présence. Nous ne pouvons pas ouvrir la bouche, mais notre cœur, lui, est ouvert. Et par le Saint-Esprit, il y a cette louange. Cette louange qui est là, ça peut se traduire par des larmes, ça peut se traduire par une joie. Et lorsqu'on se relève de l'adoration, là, la bouche s'ouvre et parle des merveilles de Dieu dans ce temps où entre Dieu et nous, Dieu nous a parlé, Dieu s'est révélé, Dieu s'est manifesté. L'adoration. Bien sûr, on médite dans la prière, on intercède. Et puis, ce que j'aime bien, c'est la prière flèche ou la prière PGV. Vous savez que parfois, on peut être dans une situation d'urgence, et là on fait une prière flèche, une prière orientée, dirigée vers une cible très précise. Et puis, vous avez la prière PGV, c'est la prière à grande vitesse, parce que vous n'avez pas trop le temps de faire ce qu'il faut pour vous préparer, mais là, comme Néhémie a pu prier devant le gouverneur avant de lui répondre, une PGV, une prière à grande vitesse, vous la faites monter de votre cœur, et là vous savez comment parler au professeur de votre enfant, parler au proviseur de votre enfant, parler à l'inspecteur académique, parler à l'employeur de votre enfant. Vous savez comment faire grâce à cette PGV, à cette prière de grande vitesse qui monte là. Ils n'entendent rien, mais Dieu lui entend. Il entend votre prière, cette PGV. Nous parlons de Dieu à nos enfants et nous parlons de nos enfants à Dieu. Et en parlant de nos enfants à Dieu, la dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est qu'en présentant nos enfants à Dieu, nous devons les bénir. Jacob a béni ses 12 fils. Joseph, Moïse ont béni Israël. Nous sommes appelés à bénir nos enfants. Nous pouvons leur imposer les mains. Nous pouvons les bénir, bien sûr, en parole, par l'imposition des mains. Nous sommes appelés à les bénir. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans Marc chapitre 10, verset 13. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, puis il les prit dans ses bras et il les bénit en leur imposant les mains. Marc chapitre 10, verset 13 et 16. C'est important pour nous parents de bénir nos enfants. C'est important. Trop d'enfants souffrent dans ce monde. Trop d'enfants sont sous le signe de la malédiction dans ce monde, alors que la croix de Christ a brisé cette malédiction. Trop d'enfants entendent des paroles qu'ils ne devraient jamais entendre. Comment un père ou une mère peuvent prononcer ces mots ? Si tu continues, je te tue. Mais c'est quoi ça ? Comment un père ou une mère peut parler ainsi ? Nous ne sommes pas appelés à tuer nos enfants. Nous ne sommes pas des assassins. Nous, enfants de Dieu, peuple de Dieu, parents convertis à Jésus-Christ, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, nous sommes appelés à bénir nos enfants. À les bénir au nom de Jésus-Christ. À les bénir pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. À les bénir pour qu'ils soient joyeux, paisibles. À les bénir pour qu'ils réussissent, oui, sur cette terre, mais qu'ils réussissent en Dieu, avec Dieu, par et avec Jésus-Christ, et conduits par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, papa et maman, soyez conscients de votre mandat et de votre vocation, de votre responsabilité. Oui, nous sommes très sensibles à leur santé. Nous sommes très sensibles pour leur habillement. Nous sommes très sensibles pour l'éducation. Je devrais dire plutôt l'instruction nationale, pour l'instruction. Nous sommes très sensibles aussi, peut-être, et je l'espère, plus encore pour leur éducation. Mais il y a un domaine qui est supérieur à tout ça, c'est le domaine spirituel. Nous ne devons pas négliger notre responsabilité dans ce domaine spirituel, dans le domaine de la foi, dans le domaine de l'autorité de Dieu et de sa parole, dans le domaine de l'onction du Saint-Esprit. Nous devons voir se développer dans le cœur de nos enfants ce fruit de l'Esprit, Galates 5, 22. Nous devons voir le caractère de Christ transpirer à travers le cœur de nos enfants. C'est formidable lorsque nos enfants sont pour nous même une source d'inspiration, lorsqu'ils peuvent, par le Saint-Esprit, recevoir une parole de Dieu. Il n'y a pas de plus grande bénédiction pour les enfants que des parents qui intercèdent pour eux, que des parents qui les bénissent. Nous sommes appelés à ça. S'il y a des candidats au mariage, donc des candidats à être certainement père et mère, soit naturellement, soit par l'adoption, eh bien n'oubliez pas ce mandat. Avant de vous marier, réfléchissez bien. C'est votre mandat de présenter Dieu à vos enfants et de présenter vos enfants à Dieu. C'est votre mandat. Personne d'autre, ni l'État, ni qui que ce soit d'autre, ne le fera à votre place. Vous voulez une église forte, une assemblée de Dieu qui glorifie Dieu, qui se remplit de l'Esprit de Dieu, fondée sur la parole de Dieu, qui honore Jésus-Christ. Eh bien, faites que vos enfants puissent aimer le Seigneur plus que tout. Puissent aimer le Seigneur plus que tout. Et quand ils viendront dans l'église, s'il n'y a pas de difficulté, ils seront les premiers dans la prière, les premiers dans la louange. Parents, n'ayez pas peur de prier à haute voix dans l'assemblée. Comment voulez-vous que vos enfants le fassent si vous ne le faites pas? Priez, élevez la voix, honorez Jésus. Je suis sûr que vous avez quelque chose à dire. Et je suis encore plus sûr qu'avant de venir à l'église, vous avez déjà parlé. Priez peut-être personnellement, mais priez, parlez dans la voiture. Alors comment? Vous vous parlez entre vous et vous n'êtes pas capable dans l'église de lui parler à lui, alors que nous sommes en famille quand même. On n'est pas gêné, on ne va pas faire des gênés là. Hein? Bon. Donc, alors, on est en famille, considère que vous êtes mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des grands-parents, eh bien, nous devons avoir cette liberté d'élever la voix pour encourager nos enfants. Pendant que notre pasteur, pasteur Joël, était en train de nous inviter à la prière, j'ai eu vraiment cette image des pieds du Seigneur. Je suis sûr que nous tous ici, si le Seigneur avait été présent, on se serait jeté à ses pieds dans les larmes, tellement il y a de grâce, tellement il y a d'amour, tellement il y a de paix. Je ne peux pas rester la bouche fermée, vous comprenez mes frères et mes sœurs, et en tant que parent, on ne peut pas, et nos enfants ne le devraient pas non plus, parce qu'il y a tellement de reconnaissance. Nous étions perdus, il nous a sauvés. Nous ne mériterons jamais cet amour, mais il nous a aimés, et en tant que parents, nous devons nous inscrire dans cette dimension et donner du relief. Parents, Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit-Saint, vous appelle à remplir ce mandat, à présenter Dieu à vos enfants et à présenter vos enfants à Dieu, être des intercesseurs, des médiateurs, des médiatrices, une source de bénédiction pour vos enfants. Votre ministère, il est là. Votre mandat, il est là. Votre service, le plus grand service que vous rendez au Seigneur, à son corps, le corps de Christ, l'Assemblée de Dieu, que vous rendez à vos serviteurs, que vous rendez à cette nation, c'est de remplir votre mandat, présenter Dieu à vos enfants et vos enfants à Dieu. Alors vous et vos enfants, vous connaîtrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et vous verrez la grâce particulière et l'onction et l'action de Dieu sur chacune de votre vie. Prions ensemble le Seigneur. Notre Dieu, notre Père.